Et en ce début de semaine, sur les ondes médias, eh bien, on fait un zoom sur les cardiopathies structurelles. Elles résultent de certaines anomalies de la structure du cœur et de certaines valves et sont parfois existantes dès la naissance. Alors, quels risques à moyen et à long terme? On fait le point avec vous aujourd'hui, professeur Ahmed Bennis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en cardiologie à Casablanca. Merci beaucoup d'être avec nous sur les ondes médias une nouvelle fois.
Merci beaucoup. Merci pour votre invitation.
Alors d'abord, je le disais, ces cardiopathies structurelles, comment peut-on les définir, professeur ?
Alors nous avons des valves au niveau du cœur. Le cœur, c'est un organe qui comprend plusieurs structures.
Oui.
Il y a le muscle, c'est le myocarde, qui va se contracter et se relâcher, qui va assurer la circulation sanguine. Et il y a des valves. Ces valves vont assurer le bon directionnement du sang. Ils vont permettre que le sang puisse aller dans un seul sens. Par exemple, le sang va revenir au niveau du cœur à partir de la circulation veineuse et il va partir de l'oreillette droite vers le ventricule droit. Ça, c'est à travers la valve tricuspide qui comprend trois cusps, trois saillies. Et puis, à partir du ventricule droit vers l'artère pulmonaire, il va passer à travers l'artère pulmonaire. Il va y avoir une circulation veineuse pulmonaire où le sang va être oxygéné. Et quand il va revenir au niveau de l'oreillette gauche, il va passer de l'oreillette gauche dans le ventricule gauche à travers la valve mitrale et puis du ventricule gauche vers l'aorte à travers la valve aortique. Et la caractéristique de la circulation du sang, c'est que ça se fait dans un seul sens.
Oui.
Il n'y a pas de possibilité que le sang aille de façon rétrograde. Il ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire dans la situation normale où on a un cœur normal. Le cœur ne peut pas passer du ventricule droit vers l'oreillette droite, ni de l'artère pulmonaire vers le ventricule droit, ni de l'oreillette gauche ni du ventricule gauche vers l'oreillette gauche, ni de l'aorte vers le ventricule gauche. Ça, c'est une chose importante. Deuxièmement, lorsque le sang va passer d'une structure à une autre, le passage est tout à fait fluide et les valves s'ouvrent pleinement. Il n'y a pas d'obstacle. Et les anomalies des valves peuvent entraîner deux répercussions, soit que les valves peuvent être fuyantes, c'est-à-dire ils vont permettre au sang de rouler à contresens et de revenir à la structure d'amont, ce qui peut gêner la circulation, ce qui va engendrer un engorgement, soit la deuxième possibilité, deuxième anomalie, c'est de constituer un obstacle au passage du sang, et à partir de là, le sang aura du mal à passer, il y aura des anomalies et des répercussions.
D'accord. Alors justement, ces anomalies, comment peut-on les reconnaître? Quels en seraient donc les premiers signes?
Alors les premiers signes, c'est l'essoufflement. C'est le principal symptôme, c'est-à-dire que on a comme répercussion une difficulté de respirer, un essoufflement. C'est pourquoi? Parce que le cœur fonctionne mal, parce que le sang a du mal à circuler et il y a une répercussion essentiellement sur la circulation pulmonaire où il va y avoir un engorgement, ce qui va créer une baisse d'oxygénation au niveau de la circulation pulmonaire, et ça va se répercuter sur les organes. Donc on va être essoufflé, on va être fatigué, et cet essoufflement va être progressif. C'est-à-dire, d'abord, on va pas être essoufflé, puis par la suite, progressivement, on va devenir peu essoufflé pour un effort important. Et puis par la suite, on va être essoufflé de façon importante pour un effort minime, jusqu'à devenir essoufflé au moindre effort. Et cette graduation, cette évolution, est une évolution qui va avec la sévérité de l'atteinte des valves. Plus la valve est malade, plus on aura un retentissement plus important. Ceci dit, on peut avoir une maladie des valves du cœur en étant asymptomatique, sans symptômes. Mais en général, plus la maladie valvulaire est importante, plus le retentissement sera important, plus la personne sera essoufflée. Donc ça, c'est l'essoufflement, c'est généralement la difficulté respiratoire. On va avoir une respiration consciente, on va avoir des difficultés à faire entrer l'air dans l'organisme. Et donc c'est pour ça que notre capacité à l'effort va être diminuée. Ça, c'est le premier symptôme. Deuxième symptôme, puisque les oreillettes vont se dilater, ça peut exposer à des problèmes de fibrose au niveau des valves, de la formation de fibres au niveau des oreillettes, et donc ça peut donner des troubles du rythme. Et on va sentir ça comme sous forme de palpitations, de difficultés, de troubles du rythme, c'est-à-dire on va avoir un rythme qui est complètement perturbé. On peut ailleurs on peut avoir des douleurs à la poitrine, ou parfois, quand l'atteinte valvulaire est assez importante, ça peut donner des hypotimies, des pertes de connaissances transitoires ou même des pertes de connaissances totales, bref. Donc voilà un peu les différents symptômes qui peuvent amener en général à consulter et qui vont bien sûr amener à faire un examen approfondi.
Alors, professeur Ahmed Beniz, je rappelle que vous êtes professeur en cardiologie. Je le disais donc, certaines anomalies de la structure de certaines valves peuvent parfois exister dès la naissance. Donc, quelles en seraient les causes d'abord? Et puis, comment ça se traite également chez un patient en bas âge?
Oui, alors justement, alors on peut avoir soit une anomalie génétique, une anomalie génétique qui peut se transmettre et qui peut entraîner une malformation de l'organogénèse du cœur, de la formation du cœur, différentes structures du cœur. Et à partir de là, on a des spécialistes en échographie fœtale qui vont pouvoir déceler dès le cours à partir de là, de la 22e, 24e semaine de la grossesse, déceler cela. Donc, et à partir de là, on va voir la sévérité de ces atteintes valvulaires. Ça peut être parfois des agénésies de valves, des absences de structure de valves. Ça peut être des rétrécissements très importants. Et aujourd'hui, on a un tel développement qu'à la naissance du bébé, à ce moment-là, on prévoit très rapidement à la naissance des réparations extrêmement rapides par la chirurgie congénitale néonatale. Ailleurs, si ça entre dans un complexe cardiaque malformatif très important, c'est-à-dire que le cœur est complètement malformé au cours de la grossesse, à ce moment-là, on peut discuter avec la famille sur la poursuite ou non de la grossesse lorsqu'on estime que ce n'est pas compatible avec une vie normale et une réduction très importante de la survie du bébé. Donc tout dépendra un peu de l'anomalie valvulaire. Alors ça peut être une anomalie chromosomique, ça peut être une anomalie congénitale, ça peut être une anomalie de structure, ça peut être parfois des anomalies infectieuses, des toxoplasmoses, des rubéoles qui peuvent toucher la femme enceinte et qui peuvent entraîner entraîner ces malformations. Ailleurs, on peut ne trouver aucune cause et on observe dès la naissance du bébé que certaines valves du cœur, en particulier les valves pulmonaires qui peuvent être touchées par exemple, qui peuvent être rétrécies, hein, ça peut être un rétrécissement de la valve pulmonaire, ça peut être des anomalies structurelles comme des trous au niveau du cœur avec des anomalies valvulaires, ça peut être aussi des fuites de valves, que ce soit pulmonaires ou aortiques, qui sont importantes, mais tout dépendra un peu du degré, et à partir de là, soit on répare très vite, lorsqu'on estime qu'on peut le réparer de façon anatomique et qu'on peut apporter à l'enfant ou en bas âge un confort et surtout on va prolonger sa survie et on va empêcher la mortalité précoce. Donc ça, si ailleurs, lorsque les anomalies valvulaires ne sont pas importantes, à ce moment-là, on va se contenter d'un suivi jusqu'à ce qu'il y ait une maturation de l'indication chirurgicale, jusqu'à ce qu'on réunisse un ensemble d'éléments qui vont nous permettre de poser l'indication opératoire. Alors pour tous ces enfants et ces adultes porteurs de maladies valvulaires, bien sûr, on va donner des conseils extrêmement importants. Oui. C'est que, vous savez que tout foyer infectieux peut être dangereux, en particulier les soins dentaires qui vont être faits sous couverture antibiotique, et tout geste médical ou chirurgical va être fait sous couverture antibiotique. Et aujourd'hui, donc, on a un suivi régulier de ces enfants, de ces adultes, et avec le développement extrêmement important ces dernières années du diagnostic précoce, donc on a parlé tout à l'heure de l'échographie fœtale, de l'échographie à la naissance de l'enfant, tout ça nous permet de faire un diagnostic précis sur l'anomalie de la valve, sur les anomalies structurelles, sur le degré de malformation, sur le retentissement sur les différentes cavités du cœur, sur la fonction du cœur, et à partir de là, c'est un travail d'équipe. C'est un travail, ce qu'on appelle hard team, c'est-à-dire un travail d'équipe qui va prendre en charge cet enfant, où il va y avoir le pédiatre, le cardiologue pédiatre, le chirurgien, le cathétériseur, et qui vont trouver la meilleure option, la meilleure stratégie pour opérer ces malades assez tôt s'il y a une indication opératoire, sinon les suivre au long cours.
Alors cette hygiène de vie, cette conduite à tenir, que ce soit pour un enfant ou pour un adulte finalement, lorsqu'on souffre donc de problèmes de valves, professeur Beniz.
Alors il est extrêmement important que tous les soins dentaires soient faits sous couverture antibiotique. Chaque geste médical ou chirurgical doit être fait sous couverture antibiotique. Ça, on donne aujourd'hui des cartes, depuis quelques années, des cartes ou un carnet de suivi où c'est bien inscrit noir sur blanc que tout geste médical ou chirurgical doit être fait sous couverture antibiotique. Et avant de pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait par exemple des soins dentaires ou n'importe quelle exploration qui va être invasive pour le corps, il risque d'y avoir une migration de microbes dans à l'intérieur du corps et qui ça peut, à la faveur des lésions valvulaires, entraîner une infection des valves du cœur et aggraver les choses et entraîner une véritable décompensation. C'est ce qu'on appelle endocardite, c'est-à-dire inflammation des valves du cœur, et ça parfois peut être dangereux. Donc ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, on va suivre, selon le degré de retentissement des valves du cœur, on va opérer ou non opérer, ou on va choisir l'option surveillance. Et lorsque les patients seront opérés, à ce moment-là, on verra si, par exemple, ils ont des valves mécaniques. À ce moment-là, on mettra un traitement anticoagulant. Ce traitement anticoagulant est en général à base d'antivitamine K. Ces antivitamines K seront suivies chaque 3 semaines par un examen qui s'appelle le taux de prothrombine et l'INR, l'international normalisé de ratio. On a des normes de suivi. Le TP, le taux de prothrombine, doit être entre 25 et 35%. Et le taux d'INR, selon l'état des valves et le risque de thrombose, ça va être entre 2,5, 3,5, voire 3,5, voilà un peu la norme. Et ça va, donc on va faire ces examens chaque 3 semaines en contact avec l'équipe médicale de façon régulière. Et donc on demande aux malades de ne pas s'automédiquer, d'éviter un certain nombre de médicaments qui peuvent entraîner des hémorragies parce qu'ils vont potentialiser l'action des antivitamines K, en particulier les anti-inflammatoires. On va leur donner un ensemble d'aliments à ne pas consommer, en particulier les aliments verts qui peuvent interférer avec les antivitamines K, les choux, tout ce qui est les salades vertes.
D'accord, les légumes verts donc. D'accord.
Les légumes verts, tout ça, ça peut parfois interférer avec et entraîner un surdosage de ce traitement et entraîner des risques. Et puis, consulter le médecin ou prendre son avis très rapidement à chaque fois qu'il y a un saignement, par exemple un saignement du nez, un saignement extériorisé, hémorragie digestive, hémorragie qui sort par la bouche, hémorragie qui sort par l'anus, par exemple des rectorragies, tout ça. Il faudrait absolument aviser l'équipe médicale extrêmement rapidement pour voir selon le degré de la gravité. Voilà un peu les conseils qu'on donne et ce n'est pas un traitement, c'est une prise en charge au long cours et aujourd'hui, on a énormément évolué, ça c'est, il faut le noter pour donner plus d'espoir à nos patients, que ce soit comme je dis sur le diagnostic, que ce soit aujourd'hui, on a la fameuse chirurgie à cœur ouvert avec la fameuse cicatrice, mais aussi on a beaucoup avancé sur le cathétérisme interventionnel, c'est-à-dire on introduit un cathéter, un tube à l'intérieur du cœur avec lequel on peut réparer les valves, on fait aujourd'hui la chirurgie mini-invasive, donc parfois des chirurgies qui peuvent être ambulatoires ou qui ont beaucoup moins de risques. Donc il y a énormément d'évolution et de progrès et des patients bénéficieront certainement de ces techniques pendant les prochaines années.
Voilà, merci beaucoup professeur Ahmed Benis. Je rappelle que vous êtes professeur en cardiologie à Casablanca. Merci d'avoir été avec nous en ce début de semaine.
Avec plaisir, bonne journée.
Bonne journée, c'est un entretien réécoutable sur notre site comme tous les autres sur Medien.com.